Bonjour et bienvenue dans le podcast test des chroniques d'Altaride numéro 0. Aujourd'hui, nous allons présenter ensemble ce projet de podcast, ainsi que aborder, de la manière dont nous le ferions si j'avais avec moi aujourd'hui les autres contributeurs qui vont participer à ce podcast, un numéro habituel, du moins avec ce premier essai de structure. Dans ce podcast, nous examinerons le numéro actuel des chroniques, c'est-à-dire le dernier sorti, en particulier en mettant en exergue un des articles publiés à l'intérieur, si possible en présence de son contributeur, de son auteur. Ensuite, après avoir bien examiné le numéro, nous pourrons aborder des thèmes de discussion en rapport avec les chroniques d'Altaride ou sans rapport avec les chroniques d'Altaride. En particulier, plusieurs rubriques devraient voir le jour ou revenir régulièrement. Par exemple, des conseils au maître du jeu, sur le modèle de la cuisine du MJ que nous avons voulu mettre en place dans les chroniques d'Altaride. Si je fais l'historique de cette idée-là, après discussion avec une amie sur le sujet, elle m'a dit que lui serait utile pour sa pratique de maître du jeu des conseils sur la façon de mettre l'ambiance dans un certain nombre de situations. Alors il ne s'agit pas de mettre une musique d'ambiance, ou même si ça peut y contribuer, ou peut-être de travailler sur l'ambiance de l'espace de jeu. Ce qu'elle entendait à ce propos, c'était plus sur la façon d'interpréter les personnages pour faire arriver l'ambiance nécessaire, et aussi pour délivrer les indices dans un scénario de type mystère, de type enquête policière qu'elle affectionne particulièrement. Après discussion avec elle, nous avons conclu que le modèle le plus intéressant probablement pour ce type de podcast serait d'aborder des cas pratiques précis et pourquoi pas à partir de questions envoyées par des auditeurs. C'est pourquoi, chers auditeurs éventuels, nous serions ravis d'avoir des contributions ou des questions, des remarques qui nous seront envoyées à propos de ce podcast, de manière à, d'une part, nous améliorer, d'autre part, en nourrir le contenu de manière intéressante. En plus des conseils éventuels au MJ, nous envisageons des chroniques de jeux, en particulier toujours dans l'orientation des chroniques d'Altaride, c'est-à-dire mettre en avant des jeux qui sont peut-être moins connus que d'autres. Pour ma part, j'ai proposer un certain nombre de scénarios pour les chroniques qui à chaque fois faisaient appel à des jeux que j'aime beaucoup, qui sont sortis parfois il y a un petit moment, mais qui n'ont pas un succès très important en France, probablement parce que beaucoup d'entre eux dans mon cas ne sont pas traduits. Aussi, évidemment, pourquoi pas des jeux français qui n'ont pas un succès mérité, ou en tout cas qui sont un peu moins répandus que les sempiternels classiques actuels. Enfin, nous parlerons du numéro suivant des chroniques d'Altaride, probablement sous forme d'un brainstorming, dans le but, encore une fois, d'encourager les gens à envoyer, les auditeurs à envoyer des contributions diverses à ce sujet, et en présentant ce que nous prévoyons d'écrire comme article, ou parfois ce que nous avons déjà écrit. Une fois ce brainstorming, cette discussion sur les prochains numéros faite, je pense que nous pourrons avoir une rubrique de type coup de cœur, coup de gueule, qu'on retrouve sur un certain nombre de podcasts. Alors moi, je prends pour exemple, dans ce cas-là, le Gencast, qu'on trouve sur Internet, sur gencast.com. Alors c'est un podcast en anglais, tourné autour du jeu indépendant, particulièrement intéressant, qui m'avait été conseillé sur Google+, et qui est un podcast que j'affectionne particulièrement, et au bout duquel les participants du podcast organisent ce qu'ils appellent des rants. C'est coup de cœur, coup de gueule, libre, concernant le jeu de rôle ou pas, à destination des différents contributeurs ici pour nous donner un caractère relativement distant. Alors, si on s'intéresse maintenant à ce numéro 0, une fois cette présentation longue faite, nous allons commencer par parler du numéro 30 sur le monstre. Quand Benoît Chérel nous a annoncé le thème du monstre, c'est un thème qui évidemment est très porteur et a motivé un certain nombre de gens à participer. À vrai dire, avec un programme chargé en convention et des numéros qui ont pris un peu de retard ces derniers temps, les contributions sont de plus en plus nombreuses et Benoît a eu besoin de faire un tri assez précis de ce qu'il allait publier dans ce magazine, dans ce numéro du magazine. C'est-à-dire que certains articles ne sont pas passés dans ce numéro, mais que leurs contributeurs ne s'inquiètent pas, ils passeront certainement dans les numéros suivants, le but n'étant pas de sélectionner à outrance, mais simplement de proposer le meilleur numéro possible dans un nombre de pages raisonnable. Pour ce numéro 30 et ce podcast numéro 0, j'ai décidé de mettre en exergue l'article que j'ai réalisé. C'est le plus simple pour ce podcast, c'est pas une question de cabotinage. Alors il s'agit de un scénario pour un jeu qui s'appelle Broken Rooms, que j'ai intitulé avec un peu de malice « L'araignée oiseau fait son nid », petit à petit l'araignée oiseau fait son nid. Alors de quoi s'agit-il ? Alors Broken Rooms, pour présenter brièvement le jeu, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, et je pense que vous êtes nombreux, c'est un jeu dans lequel on va incarner des personnages capables de voyager entre différentes versions de la Terre. Il y a une dizaine d'années dans le jeu, des événements cataclysmiques ont eu lieu qui ont engendré une séparation de la Terre et de 12 autres versions de celles que nous connaissons, 12 versions post-apocalyptiques. Alors pour être précis, sur notre Terre, la Terre intitulée la Terre 1, il n'y a pas eu d'apocalypse. Simplement, un certain nombre de gens ont été touchés par des événements cataclysmiques, mais au niveau personnel, le même jour. Et parmi tous ces gens, un certain nombre étaient porteurs d'une mutation anatomique, désignée sous le nom d'anomalie du tronc cérébral. Et les porteurs de l'anomalie du tronc cérébral sont capables de passer d'une version de la Terre à une autre. Alors dans les 12 autres versions de la Terre, la civilisation telle qu'on la connaît a plus ou moins pris fin suite à des catastrophes ou des événements incompréhensibles qui ont eu lieu. On peut citer Terre 2, sur lequel la population a en grande majorité disparu du jour au lendemain, laissant la place à une nature sauvage qui a reconquis les villes depuis, et exacerbant l'agressivité des animaux sauvages. Seuls sont restés sur Terre 2 les porteurs de l'anomalie du tronc cérébral. Sur d'autres terres, le climat a changé, soit pour devenir extrêmement froid, soit au contraire pour devenir extrêmement chaud. Dans certaines versions, un peuple extraterrestre a attaqué la Terre et s'y est installé, mais sans remporter totalement la victoire. Dans une autre version, les humains ne sont plus capables d'avoir des enfants, sauf certaines femmes qui sont porteuses de l'anomalie en question, même si les personnes du monde ne le savent pas. Ils n'ont pas fait le lien entre les différentes anomalies du tronc cérébral et la fertilité. Enfin, en tout cas, la plupart d'entre eux n'ont pas fait le lien. Et dans le monde qu'on va explorer lors de ce scénario, Terre 12, la Terre a croisé la route d'une entité extradimensionnelle extrêmement puissante, une sorte de grand ancien cthulien, et suite à cette rencontre, des monstres se sont déversés sur Terre pour traquer l'humanité et pour la dévorer. Ces monstres sont invisibles pour la plupart des humains, seuls sont capables de les voir, les enfants avant la puberté et les porteurs de l'anomalie, encore une fois. Les monstres en question dégagent aussi une énergie qui est appelée une énergie mauvaise, et cette énergie mauvaise empoisonne les gens qui sont en contact avec elle. Les adultes meurent quasi irrémédiablement une fois en contact avec cette énergie, peut-être sous la forme d'un empoisonnement aux radiations, enfin en tout cas d'après le livre de base ça y ressemble. Et dans le cas où dans le cas où ils sont porteurs de l'anomalie, ils survivent sans aucun problème. Les enfants, plus ils vieillissent, plus ils sont sensibles à cette anomalie, à cette énergie mauvaise. Ça commence par des maux de tête et ça se termine par des affaiblissements très importants jusqu'à la mort. Ce qui fait que les maux de tête et leur apparition indiquent que l'enfant commence à être trop vieux pour pouvoir lutter contre les monstres. Alors pourquoi lutter contre les monstres ? Parce que seuls les enfants sont capables de les voir, comme je l'ai dit précédemment. Ce qui veut dire que seuls les enfants sont capables de protéger les adultes contre les monstres. La plupart des sociétés humaines se sont restructurées de manière à former des petits groupes défendus par leurs enfants, et des enfants qui sont formés à être des soldats à travers un certain nombre de jeux martiaux, dans un certain nombre de cas, à travers un entraînement, et jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus remplir ces fonctions-là. Dans le cadre de jeux que j'ai décidé de proposer pour ce numéro, les joueurs vont incarner ces enfants. Alors j'avais plusieurs choix. Le premier choix était de me dire je vais faire un scénario qui sera à la suite du premier scénario que j'avais proposé pour Broken Rooms, qui s'appelait L'ours de la place Vendôme. Et donc, dans l'Ours de la place Vendôme, on jouait des gens qui subissaient leur premier voyage à travers les mondes et qui se retrouvaient, lors d'un voyage dans le métro, sur Terre 2, dans un monde avec quasi-désert, quelques humains seulement restant derrière. Et suite à leur pérégrination dans ce monde-là, ils réussissaient à regagner Terre 1 en ayant compris ce qu'ils étaient. Alors, on peut jouer tout à fait « La Reine Oiseau fait son nid », en prenant la suite de ce scénario et en reprenant les personnages. Cela dit, je me suis dit que dans un numéro sur le thème du monstre, il était intéressant de jouer ceux qui luttaient directement contre les monstres et qui appartenaient à ce monde-là, donc les enfants. C'est pourquoi j'ai proposé d'incarner un groupe d'enfants qui forment une patrouille qui a été désignée sous le nom des X par leur entraîneur, étant l'oncle Benji, un ancien enfant soldat qui a survécu à cette terrible épreuve que de lutter contre les monstres pendant des années avant de tomber malade. Et l'oncle Benji, pendant sa convalescence, après sa lutte, il a dévoré des vieux stocks de comics, et en particulier des comics sur les X-Men, dont il est tombé amoureux en quelque sorte, et il a repris une grande partie des valeurs présentées dans ce comics-là pour entraîner les enfants à lutter contre les terribles monstres qui assaillent l'humanité. Ces enfants, cet oncle Benji, etc., se retrouvent dans un vieux fort de Vauban, dans les sous-sols d'un vieux fort de Vauban qui avait été reconverti en caserne de gendarmerie. Et suite à cette reconversion, avait été oublié un certain nombre d'espaces souterrains et de bunkers qui existaient en dessous. Alors, suite à l'invasion, les humains, enfin tout un groupe d'humains mené par un commissaire de police au courant de l'existence de cet abri, se sont cachés et ont fondé toute une communauté à l'intérieur de ce bunker que j'appelle dans le scénario le refuge. À l'intérieur du refuge, nous avons donc des adultes qui vivent tant bien que mal en utilisant leurs connaissances, en utilisant l'ascendant qu'ils ont sur les enfants, et des enfants qui vont protéger ces adultes. La patrouille des X, elle est chargée de rechercher des ressources pour le refuge et de repérer les concentrations de monstres. Au début du scénario, on est plongé dans l'action alors que les X défendent une caravane une caravane d'approvisionnement contre une horde de monstres qui les attaque. Et je ne vais pas évidemment en dévoiler beaucoup sur le scénario, mais les membres du groupe des X vont devoir lutter contre ces monstres, protéger les adultes et comprendre pourquoi ces monstres sont beaucoup plus nombreux que d'habitude et comment peut-être régler le problème. Alors au début de la partie, ils ont déjà voyagé vers un monde où il n'y a pas de monstres, un monde où la civilisation est restée intacte, et ça ils le savent, et ce qu'ils savent aussi, c'est que s'ils peuvent y aller, ils ne peuvent pas emmener les adultes avec eux, ils ne peuvent pas emmener leur famille, leurs frères et sœurs éventuels avec eux. Donc voilà pour un petit tour d'horizon de ce scénario. J'ai voulu un scénario dans lequel on retrouve les sensations qu'on peut avoir étant enfant, lorsqu'on décide que le monstre n'est plus destiné à nous faire peur, mais qu'on va vaincre le monstre, un petit peu les premières émotions de jeu de rôle aussi que j'ai ressenties lorsque, jeune adolescent, on partait à l'intérieur du temple du mal élémentaire avec nos personnages en jouant à Donjons et Dragons, enfin ADD en fait à l'époque, ADD 1 puis 2, et on allait combattre ces monstres affreux en leur tapant dessus à coups de marteau, d'épée, de hache, de sort aussi parfois, et ce côté jubilatoire qu'il peut y avoir à vaincre le monstre. C'est pas un scénario qui est censé être déprimant, c'est un scénario qui au contraire est censé montrer le triomphe de ces enfants à travers évidemment une implication profonde, puisque à chaque fois qu'il y a un adulte qui meurt, c'est presque un membre de leur famille qui meurt et c'est un échec pour eux. Et on va voir comment les joueurs éventuels vont pouvoir découvrir ce scénario et ce jeu que j'aime particulièrement. Dans une deuxième rubrique, nous pourrions étudier différents débats. Alors évidemment, comme je suis tout seul, je ne vais pas faire de débat. Cependant, j'ai eu l'occasion ce week-end de pouvoir créer des personnages, enfin créer un personnage pour moi avec un groupe de joueurs pour un autre jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Houses of the Blooded. Et Houses of the Blooded, c'est un jeu de John Wick dans lequel on va jouer des personnages qu'il appelle les Venn, qui sont une sorte de race pré-humaine, d'êtres beaux, forts, très intelligents, qui vivent des situations semblables à ce qui peut se passer dans des tragédies. Et le but du jeu, c'est de reconstituer ces tragédies vaines dont il explique qu'on a retrouvé la trace archéologique à travers des écrits qui sont parvenus jusqu'à nous. Alors c'est un jeu qui est extrêmement particulier dans sa façon de fonctionner, puisque au niveau du système, lorsque on fait un jet de dés, c'est pas pour déterminer si une action va fonctionner ou non, c'est pour déterminer qui va être capable de décider de l'issue de cette action. Alors à la base, on va tirer un certain nombre de D6 qui dépend de la valeur d'une carac. La carac, elle va aller entre... ils appellent ça une vertu dans le jeu. Et cette vertu, elle va aller de 0 à 5. On va pouvoir rajouter un certain nombre de dés en fonction d'un certain nombre de circonstances. Par exemple, c'est un jeu qui utilise le système d'aspect qu'on retrouve dans le système Fate. Et à l'époque où le jeu a été écrit dans Spirit of the Century, qui utilise donc le premier jeu à utiliser le système Fate. Alors ces aspects vont détailler des caractéristiques particulières des personnages, des domaines dans lesquels ils sont doués, des situations dans lesquelles ils ont des bonus, etc. Et on va pouvoir gagner un certain nombre de dés en plus dans notre pool de dés. Une fois qu'on a notre pool de dés, on va pouvoir lancer un certain nombre de dés, on va choisir le nombre de dés qu'on lance, et si le total de ces dés lancés fait 10 ou plus, on va pouvoir décider de l'issue de l'action. Et c'est là que les dés mis de côté au départ, qu'on avait dans notre réserve de dés mais qu'on n'a pas choisi de lancer, vont être utiles. Ces dés, on va les désigner sous le nom de pari. Et chaque pari va permettre de rajouter un élément à sa description sous la forme de oui et, oui mais, etc. La règle d'or, c'est de ne pas contredire ce qui a été dit avant. Alors, si on prend un petit exemple, qui est un exemple du bouquin extrêmement classique et parlant, imaginons un Ven qui est en train de s'enfuir, poursuivi par un mari jaloux, et qui cherche à s'enfuir d'un toit et à sauter sur le toit du bâtiment voisin. Il va donc générer une réserve de dés, il va utiliser sa vertu de force dans ce cas-là. Mettons qu'il ait une force de 4, donc il va avoir 4 dés. Mettons qu'il ait un aspect qui peut être, je sais pas, en prenant au hasard, fuyard, qui va pouvoir l'utiliser ici, alors peut-être qu'il va rajouter donc 3 dés, ça va lui faire 7 dés. Alors pour faire 10 ou plus, évidemment 7 dés c'est largement suffisant. Il va donc mettre un certain nombre de dés de côté. Il va décider par exemple de prendre 3 dés pour faire son jet, ou 4 dés pour être sûr, et il va nous mettre 3 dés de côté. Chacun de ces dés va lui permettre de rajouter un élément. S'il réussit son jet, évidemment. S'il le rate, c'est le maître du jeu qui va choisir. Alors voilà comment ça peut se passer. Il tire ses 4 dés, mettons qu'il fasse 15. Bon, un bon résultat, on est au-dessus de 10, il va donc choisir. Alors il peut choisir, je saute de l'autre côté du bâtiment. Ou, je ne réussis pas à sauter de l'autre côté du bâtiment. Chacun des paris va ensuite pouvoir enrichir cette description. Avec un premier pari, mettons qu'il choisisse parce que c'est plus intéressant la deuxième option, je ne réussis pas à sauter de l'autre côté du bâtiment, mais je tombe sur un balcon juste en contrebas. Ça va faire un pari. Il en a 3. Je tombe sur un balcon, donc si on reprend, je ne réussis pas à sauter sur le toit d'en face, mais je tombe sur un balcon en contrebas, et une superbe jeune femme m'ouvre la porte-fenêtre. Un deuxième pari est utilisé. Et c'est ma cousine, Cindy, qui me permet de voyager, enfin, qui va me cacher pour la nuit, par exemple. Alors ça peut aller un petit peu loin, après ça dépend, il faut se caler, etc. Ça fait longtemps que j'ai pas maîtrisé ou joué à ce jeu, donc j'ai plus forcément tout en tête, mais voilà l'idée. Et il faut savoir que ce principe-là, il fonctionne pour tous les types de jets de dés habituels de jeux de rôle. Pour les actions, c'est relativement facile à comprendre et à anticiper. En gros, le joueur va décider la façon dont la chose va se passer. Mais ça fonctionne aussi pour tout ce qui est la perception, la recherche d'informations, les connaissances, etc. Et on en vient au sujet dont je voulais parler ici. Alors le sujet dont je voulais parler ici, c'est la façon dont John Wick aborde le thème du monstre. Parce que dans Houses of the Blooded, vous avez d'un côté les veines et de l'autre côté le reste du monde. Et le reste du monde, les habitants du reste du monde, les veines les désignent sous le nom d'orques. Ces orques sont donc des créatures, plus ou moins horribles, en tout cas barbares, du point de vue des veines. Quand un joueur ou un groupe de joueurs va rencontrer un orque, en général il va demander au maître du jeu « Mais à quoi ressemble cet orque ? C'est le réflexe normal. Le maître du jeu va dire, bah écoute, fais-moi un jet de sagesse pour voir si tu connais ce type d'orque. Sagesse étant une vertu. Le joueur fait son jet de sagesse, garde un certain nombre de paris, de la même manière. Alors, ils peuvent intervenir les jets coopératifs avec la façon dont les autres joueurs vont pouvoir intervenir sur le pari, etc. etc. Il va mettre un certain nombre d'éléments de côté. Il va faire son jet de dés. Lorsque le jet de dés est réussi, il va pouvoir décider à quoi ressemble l'orque. Par exemple, il va pouvoir dire « Cet orque, c'est un dragon. » Et il crache du feu. Et il a des écailles en acier. Évidemment, on peut se demander, mais quel est l'intérêt pour le joueur de décrire un monstre terriblement horrible et affreux, alors que il pourrait décrire, pour reprendre les propos de notre maître du jeu d'hier, il pourrait décrire un écureuil à tête de poulet. Absolument pas dangereux. Bah, l'idée du jeu, et un des principes fondateurs du jeu, c'est qu'on essaye de reconstituer une tragédie et que l'intérêt du personnage est certes important, mais l'intérêt de l'histoire est aussi important. Et que, finalement, comme on essaye de modéliser une tragédie, l'intérêt du personnage va dans sa participation à cette tragédie et dans le fait qu'il va réaliser des actions exceptionnelles, héroïques et tragiques, face au monde dans lequel il est. Évidemment, combattre un dragon qui crache le feu et couvert d'écailles d'acier, ça risque d'être plus difficile que de combattre un écureuil à tête de poulet. Mais le prestige et les récits qu'il va pouvoir en tirer vont être évidemment beaucoup plus importants et l'excitation autour de la table de jeu va être beaucoup plus importante. Ce qui veut dire que, et c'est là que le système est malin, si le joueur décrit un écureuil à tête de poulet, bon bah le maître du jeu va dire ouais bon d'accord, hein, c'est toi qui choisis, bon voilà l'écureuil à tête de poulet, il t'attaque, bon bah voilà tu le tues, c'est fini. En revanche, si on choisit le dragon cracheur de feu à écailles d'acier, le maître du jeu va pouvoir récompenser le joueur en lui donnant des points de style parce que son action est réellement impressionnante. Ces points de style vont être utilisés par le personnage pour mieux réussir ses actions, pour financer des petits pouvoirs dont il dispose, etc. etc. C'est l'équivalent des points de destin dans Fate, en fait. Avec un certain nombre de règles qui les entourent. Donc, si on revient au thème du monstre, dans Houses of the Blood Inn, le monstre existe. C'est, en somme, l'ensemble du monde qui n'est pas vain. Et ce sont les joueurs qui, lorsqu'ils rencontrent les monstres, vont décider de qui sont ces monstres. Le maître du jeu, évidemment, a une petite liberté, notamment si les joueurs ratent leur jet de dés. Et puis, il a la liberté de choisir les pouvoirs des monstres, il a la liberté de choisir tout ce que les joueurs n'auront pas défini. Mais c'est un exercice qui est quand même relativement différent et intéressant. Et je sais que un des grands plaisirs qu'on peut avoir lors d'affrontements de monstres en jeu de rôle, c'est de découvrir le monstre, de comprendre comment il fonctionne, de voir si on peut le battre, d'être un peu héroïque, etc. Ici, on a l'opportunité de décider, dans une certaine mesure à la volée, du monstre qu'on va affronter. Ça va évidemment orienter la campagne, comme on ne revient pas sur ce qui a été dit. Une fois qu'un monstre est apparu, il est tout à fait possible que les monstres suivants lui ressemblent. Voilà. Donc ça, c'était pour parler un petit peu de Houses of the Blooded, de John Wick, et la façon dont il traite les monstres à l'intérieur de ce jeu. Enfin, la rubrique suivante dans notre podcast test, ce sera le brainstorming concernant le numéro suivant. Ça, c'est un point qui tenait à cœur à Benoît Chérel, et qui me paraît moi-même très intéressant. Je vais donc parler de ce dont j'ai discuté à ce propos-là et ce que moi j'ai prévu d'écrire pour le numéro suivant. Alors le numéro suivant, le numéro 31, dont la deadline est pour le 25 novembre 2014, donc si vous voulez participer, c'est la limite à laquelle vous pouvez vous confronter. Ce numéro 31 concernera le thème de la fête. Alors, pour ce numéro de la fête, j'ai choisi de ne pas écrire de scénario, j'en ai fait un pour le numéro précédent, j'ai la suite de la campagne Eclipse Phase qui devrait arriver dans les chroniques dans les numéros prochains. Je m'en écarte un peu pour faire un article de contexte pur, dans lequel je vais présenter une fête qu'on a utilisée dans une récente partie de Donjons & Dragons Next, ou 5, donc la toute nouvelle édition qui vient de sortir. On s'est dit qu'on allait tester ce jeu. Et pour le tester, on a fait une partie dans laquelle on a déterminé un certain nombre d'éléments. Et j'avais demandé, comme j'étais le maître du jeu désigné pour cette partie, j'avais demandé aux joueurs, donnez-moi un élément particulier de la ville dans laquelle vous jouez. Et je crois que j'avais demandé, parlez-moi, donnez-moi une fête. Parce que je leur ai dit, voilà, le scénario va se passer au moment d'une fête. La fête qu'ils ont eue, ils sont arrivés à me dire, bon, voilà, il y aura une fête des sorciers. Alors, partant de cette idée-là, j'ai développé ce concept de fête des sorciers que j'ai utilisé en jeu. Alors, je l'ai utilisé dans la partie vraiment comme une sorte de cadre général pour expliquer ce qui se passait, etc. Et dans l'article, je vais revenir sur cette fête des sorciers et je vais expliquer son origine, la façon dont elle fonctionne dans cette ville-là, décrire un petit peu la ville. Bref, proposer un cadre utilisable par n'importe quel maître du jeu, à n'importe quel monde, dans n'importe quel monde où il y a des sorciers. Alors, c'est plutôt parti sur un monde médiéval fantastique, mais ça peut évidemment être évolué relativement simplement. D'autres articles, j'ai discuté avec un ami Willem qui se propose d'écrire un article pour ce numéro-là, et lui était parti aussi sur la description d'une fête utilisable par les maîtres du jeu, et il est plutôt parti actuellement sur l'idée d'une aide de jeu, sur la façon dont un maître du jeu peut mettre en œuvre et mettre en place une fête à l'intérieur d'un jeu de rôle, en quoi ça peut lui servir, quelles opportunités de jeu ça fait apparaître, etc. etc. Donc ce sont des sujets qui sont assez intéressants, et c'est une très bonne idée qu'il a eue, parce que j'avoue que lorsque j'ai vu le thème de la fête au départ, ça m'a pas vraiment inspiré. Donc nous verrons. Le thème suivant, c'est la mémoire, on en reparlera dans le prochain numéro du podcast des Chroniques d'Altaride, j'espère cette fois-ci de bien meilleure qualité et surtout accompagné d'un certain nombre d'autres chroniqueurs et d'autres intervenants, qu'ils écrivent ou non dans les chroniques d'Altaride. Et bien voilà, je suis arrivé quasiment au bout, il me reste la partie coup de cœur et coup de gueule. Aujourd'hui, ça va être deux coups de cœur, très importants. Le premier, pour un camarade connu de très loin, depuis des années, Benoît Atinost, qui sort un jeu qui s'appelle Within. Benoît, donc c'est un jeu d'horreur qui paraît très intéressant, on en parle d'ailleurs dans le numéro 30 des chroniques, et j'ai été extrêmement surpris de le trouver là, puisque Benoît, je l'ai rencontré virtuellement il y a des années, en jouant à World of Warcraft, à l'époque où on jouait pas mal. Depuis, on s'est vraiment perdu de vue, on n'a jamais eu vraiment beaucoup de contact en dehors du jeu, d'ailleurs, on a juste discuté le jeu de rôle quelques fois. Et ça a été un grand plaisir de retrouver cet auteur que je connaissais, auquel je pense souvent sous un autre nom, qui est le nom de son personnage de l'époque, et de le retrouver à l'intérieur des Chroniques d'Altaride, dans lesquelles je participe pas mal, après des années. Donc Within, allez voir, c'est un jeu qui paraît très très prometteur. Pour ma part, je ne l'ai pas encore regardé, mais ça ne saurait tarder. Deuxième coup de cœur, c'est pour... dans le but de faire ce podcast, je me suis renseigné, j'ai écouté un certain nombre d'autres podcasts, j'ai fait des recherches diverses et variées, et je même si ça ne lui ou leur parviendra pas, puisque je parle en français et que c'est un podcast anglais, ceux qui d'entre vous peuvent en comprendre l'anglais parlé, je vous conseille d'aller écouter le Happy Jacks RPG Podcast. C'est un podcast d'un groupe de joueurs de la côte ouest américaine, dirigé par un type qui s'appelle Stu Venable, qui est un producteur, il a un métier, mais il s'intéresse énormément à l'audio, à la production de podcasts, à l'enregistrement de musique. Il fait partie de plusieurs groupes de musique, en particulier de musique folk, de reconstitution médiévale, etc. Et bon, j'aime beaucoup ce qu'il fait à tout niveau, et il a fait notamment une série de 6 podcasts à propos de l'activité de podcasteur et l'activité de la façon dont on pouvait capter le son, enregistrer le son, et j'ai appris beaucoup beaucoup de choses en l'écoutant, beaucoup de choses très intéressantes, c'est pour ça que je voulais dire un mot à son sujet. Voilà, c'est terminé pour cette fois, on va voir ce que ça donne après nettoyage du podcast et éventuellement réenregistrement plus tard. En tout cas, c'était un premier test relativement intéressant, et je dis à tout le monde au revoir.